Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je précise un peu la situation.
Oui.
Nous sommes devant la sous-préfecture.
Oui.
Et là, vous êtes une délégation d'à peu près une quinzaine de jeunes femmes, enfin,
oui.
Qui manifestaient pour la reconnaissance des difficultés de
oui.
l'EHPAD
oui.
actuellement.
Oui.
Alors, quelle est la situation aujourd'hui ?
Alors, la situation actuelle, c'est qu'il faut savoir qu'on n'est qu'une quinzaine de personnel, en sachant qu'il y a des grévistes aussi qui travaillent dans les services. Comme on n'a pas le droit de... Ben, on est obligé d'aller travailler, bien entendu, pour le bien-être de la personne. Eh bien, nous sommes une soixantaine, en fait, en tout, qui sont grévistes. Et nous revendiquons nombreuses choses en ce qui concerne le manque de personnel qu'il y a. Et au niveau de la prise en charge de la personne âgée, puisque nous travaillons en EHPAD, nous sommes en grande difficulté, puisqu'actuellement, le gouvernement baisse sans arrêt les effectifs. Et on a de plus en plus de personnes âgées. Comme vous pouvez le savoir, en France, la population est de plus en plus vieillissante et il y a beaucoup de demandes. Et les gens arrivent en EHPAD entre 80 et 90 ans. La prise en charge est différente puisqu'il y a le maintien à domicile qui compte aussi. Et on se retrouve en difficulté, ce genre de difficulté, où on se retrouve pour 38 résidents, voire 40, à 3 soignants. Et donc la difficulté actuelle, c'est qu'on ne peut pas donner de toilettes décentes pour ces personnes âgées qui payent, et qui payent chèrement leur hébergement. Et la plupart du temps, ils sont loin de leur famille. Et donc, les familles ne sont pas là derrière à dire « Attendez, ma mère n'a pas eu sa douche depuis 15 jours. » Et c'est des revendications qui datent depuis des années. Et aujourd'hui, quand on entend dire le président de la République qu'il faut faire des baisses de budget parce que si, parce que ça, je suis désolée, on ne peut pas l'entendre quand il s'agit de l'être humain. Parce que ces gens-là, c'est des êtres humains. On nous parle d'humanitude, on nous parle de bien-traitance. Eh bien, commencez à donner les effectifs qu'il faut pour soigner ces personnes. Parce que c'est absolument scandaleux ce qui arrive. Et nous savons que la population française est de plus en plus vieillissante. Et nous savons qu'aujourd'hui, les gens, ils vont rentrer en EHPAD. Et ils se retrouveront avec des situations difficiles et des mauvaises prises en charge. Je vous parle aussi de la fin de vie. Des personnes qui sont en fin de vie, qui ne sont même pas accompagnées jusqu'à la fin. C'est la base de l'être humain, c'est la dignité. La dignité, c'est quand même le mot qui revient. Et l'humanitude. L'humanitude, c'est quelque chose dont on nous parle tout le temps. Et c'est le personnel soignant qui empathie, qui est fatigué, qui est démuni. Et on en a marre, en fait. Voilà.
Quelle est la justification du gouvernement ou des pouvoirs publics sur cette baisse de dotation ? Il justifie par quoi ?
En fait, on ne sait pas réellement, parce que quand on entend parler que c'est vrai qu'on est maintenant, il faut qu'on s'aligne au niveau européen en ce qui concerne les restrictions budgétaires, parce qu'on est dans un plan de rigueur, et il faut absolument... Attendez, je crois que c'est des gens qui n'ont jamais mis le pied dans un EHPAD, qui n'ont jamais écouté le personnel. C'est pas possible autrement, parce que n'importe quelle personne qui rentre dans un EHPAD, qui passe une journée avec nous, ils verront que c'est impossible et qu'on ne peut pas parler de baisse de budget dans la santé. C'est la vérité, je veux dire, c'est quand même... C'est une loi universelle, on sait très bien que quand on se rend dans une EHPAD, n'importe laquelle, je suis désolée, les personnes, on a besoin d'argent dans ce secteur-là. Et après, je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument baisser ce genre des effectifs, parce qu'ils estiment que normalement, on devrait travailler, il faudrait un patient pour un soignant. Là, actuellement, on est à un soignant pour 12 patients. 12 patients. Qui sont au niveau de l'autonomie pratiquement, en fait, ils en ont plus aucune autonomie, ou alors ils sont en train de perdre leur autonomie. Donc voilà, c'est pas normal.
Alors la constitution, juste pour rappeler un peu aux auditeurs, la constitution d'un EHPAD, quelles sont les conditions pour qu'elle soit créée sur un territoire ?
Alors les conditions, c'est bien entendu avoir les personnes âgées, enfin le Après, c'est au niveau de la population, voir le nombre de personnes âgées. Voilà, de toute façon, je pense qu'en fait, c'est par rapport à la demande. Bien entendu, la plupart du temps, c'est des rapprochements familiaux. Parce qu'il y a des personnes qui habitent loin et qui veulent se rapprocher de leurs enfants, puisque elles sont la plupart du temps, bon, bah, c'est les enfants qui sont déplacés. Maintenant, on est quand même dans une société où les gens bougent beaucoup. Et donc, ça joue. Alors, quand les personnes âgées veulent intégrer des EHPAD, donc c'est souvent des rapprochements. Après, c'est des gens qui ne veulent pas quitter leur ville natale, ce qui est tout à fait normal, parce que en fait, c'est ce qui les relie directement à la vie sociale, enfin, qu'ils essayent de maintenir par la visite de leurs enfants ou des parents proches ou des amis. Et puis, de toute façon, c'est clair qu'en ce moment, beaucoup de gens rentrent en EHPAD et ils ne trouvent pas forcément la place. Alors, il y a des gens, ils habitent sur Cré, mais ils sont obligés de venir sur Audi, par exemple, en attendant de trouver une place en EHPAD ailleurs. Alors qu'on sait que c'est quelque chose, en fait, qui va s'amplifier avec le temps. Donc, créons des vrais EHPAD avec du personnel. C'est ce qu'on demande, du personnel pour une prise en charge digne de ce nom.
Vous parliez tout à l'heure que vous étiez une soixantaine de grévistes. Ça regroupe le territoire du Diois dans son ensemble ou au-delà ?
Non, ça regroupe là, je vous parle uniquement de l'EHPAD du centre hospitalier de Die. Voilà, ils sont une soixantaine à être en grève parce que de toute façon, ils sont au plus près des personnes âgées, ils savent très bien ce qui se passe. Et je pense que il me semble que de toute façon, au niveau national, c'est la première fois que ça arrive. Et là, les revendications, elles sont là depuis très très longtemps. Parce que là, on est en train d'exploser, en fait. Là, elles en peuvent plus. Moi, je vois mes collègues, je les vois arriver au travail, la boule au ventre, à se dire, bon, ben, par qui je vais commencer? Qui c'est qui aura sa toilette complète? Parce qu'on ne peut même plus parler de douche, en fait. Et on arrive, on se dit, mais attendez, par qui je vais commencer? Qui c'est qui va avoir droit à sa douche aujourd'hui, une fois tous les 15 jours? Il y a quelqu'un en fait qui en arrêt parce qu'en fait elle s'est fait un lumbago. Mais pourquoi elle s'est fait un lumbago? Bah, parce qu'elle était toute seule à lever une personne âgée qui aurait dû avoir nécessité d'avoir deux personnes. Voilà. Et après, on dit qu'on abuse du système. Non, c'est le système qui abuse de nous. Ils abusent de nous. Il y a beaucoup de maladies professionnelles dans le monde de la santé. Et c'est ça, on ne peut pas le nier. Et on ne profite pas du système, non. C'est faux. C'est faux, c'est complètement faux.
Je voulais savoir, l'EHPAD de Die est géré par quelle administration précisément ?
L'EHPAD de Die est géré par l'administration hospitalière du centre hospitalier de Die, en fait. C'est eux qui gèrent. Après, on va plus haut, il y a l'ARS de Valence, il y a toutes les institutions qui sont au-dessus de nous. Mais là, en fait, eux... l'administration de Die, on ne peut pas les blâmer, puisque de toute façon, ils sont là pour appliquer aussi les lois. C'est la demande, en fait, qui fait que on leur met la pression. On leur dit, bon, il faut pas tant de personnes. Et ben, du coup, on fait signer des CDD, hein, 2-3 mois, et puis 2-3 mois. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, la personne n'a plus de boulot. Hein, et quand même, on est dans la fonction publique hospitalière. Hein, et puis, à l'heure actuelle, le CDD, c'est quand même une grande précarité. Donc déjà, on n'est pas les nouveaux personnels qui arrivent, ils signent pour 3 mois. Et puis après, du jour au lendemain, on leur dit, en fait, non, on n'a plus besoin de vous. Alors qu'on sait qu'on a besoin d'eux. Et quand on voit la collègue partir, on dit, mais oui, mon CDD est terminé. Oui, mais qui c'est qui va te remplacer? Personne. Parce que l'État en a décidé autrement.
Je voulais savoir, étant dans le même centre hospitalier que l'ex-maternité et l'antenne de chirurgie, est-ce que vous avez cette crainte aussi de voir un processus engagé avec l'EHPAD dans un processus de dénigrement et de pourrissement ?
Alors, le processus de dénigrement, oui, de toute façon, c'est au niveau des budgets, hein, ça reste toujours la même chose. En ce qui concerne la maternité et la chirurgie, c'est vrai que c'était des services qui ne généraient pas d'argent. Alors forcément, quand on sait la politique actuelle, il faut que ça génère, il faut qu'on produise. Sauf que là, on est quand même excentré par rapport aux autres possibilités de pouvoir accoucher ou de se faire opérer. Il faut faire des bornes. Je pense que, en fait, on sait, nous, on est bien positionnés pour vous dire que c'est des services EHPAD qui vont fonctionner. C'est sûr et certain. Et que au prix où ils payent, je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir, en fait. Donc, du coup, on sait que c'est des services qui vont être pérennisés à travers le temps. Et pour très, très longtemps, la population vieillit. Donc, forcément, il y aura de plus en plus d'entrées en EHPAD. Je ne pense pas qu'on soit sur la même politique de maternité et de chirurgie qui, elle, générait plus d'ennuis au niveau... au niveau de l'hôpital, puisque on ne générait pas d'argent, donc forcément ça n'allait pas tenir. L'EHPAD restera ce qu'elle est. Le problème, c'est que s'il continue comme ça, la prise en charge va être mauvaise, et puis on va commencer à avoir des problèmes avec les familles, parce que les familles, elles ne sont pas dupes, elles le voient avec le temps. Mais le problème des personnes âgées et de leurs familles, c'est qu'ils ont peur de revendiquer leurs problèmes. Ils ont peur, en fait, d'être mis à la porte. Parce qu'ils se disent, mais où je vais aller? Il faut que je reste à Die. Est-ce que je ne peux pas aller à Valence? Je ne veux pas aller à Cré parce que mes enfants sont à Die. Ils ont peur, les familles ont peur. Et moi, je dis aux familles, c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui, avec nous aussi, main dans la main, les conditions de vie de vos aînés, de vos parents, de vos arrière-grands-parents peuvent être améliorées grâce aussi à votre mobilisation. Et il ne faut pas avoir peur. Et il faut le dire, il ne faut pas hésiter à faire des lettres, il ne faut pas hésiter à dire voilà comment est traitée ma mère, mon père, ma grand-tante, mon cousin. Voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut qu'on soit main dans la main. Et je suis sûre que les choses seront différentes à ce moment-là. Parce que les personnes âgées, parce qu'elles sont âgées, elles n'ont pas forcément leur parole à dire. Mais les familles sont là pour relayer parce que non, elles ont un lien social à l'extérieur et elles ont plus de force. Parce qu'une personne âgée qui a 95 ans, je pense que c'est difficile pour elle de dire qu'elle a des problèmes et qu'il se trouve qu'elle n'a pas toujours les soins qu'elle voudrait, elle n'a pas toujours la communication qu'elle voudrait. Et ce qu'elle souhaite, en fait, c'est d'être pris en considération en tant qu'être humain.
Par rapport au budget, je voulais savoir, est-ce qu'on vous informe des problématiques et des coûts sur un budget de fonctionnement? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Non, vous n'avez pas connaissance de ce dossier?
Le personnel n'a aucune connaissance. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on nous baisse les effectifs. Et là, on se doute qu'il y a un problème. C'est tout ce qu'on peut... Le personnel n'est pas du tout au courant. Alors, bien sûr, on a un syndicat. Hein, je suis représentante déléguée du syndicat Force Ouvrière. Donc, nous, on a des connaissances qu'on essaye. Alors après, ça reste quand même du domaine du secret professionnel, bien entendu. On ne peut pas divulguer tout ce qu'on entend lors des commissions. Par contre, on peut pointer le doigt sur les difficultés que ressentent le personnel. Et on peut poser des questions, bien entendu, à l'administration, qui, elle entend. Hein. Ce n'est pas le problème. Hein. Je pense qu'ils s'en rendent compte, parce que c'est des êtres humains aussi, puis qui travaillent aussi dans le même milieu. Mais je pense qu'en fait, ils sont désarmés eux aussi. Alors, bien entendu, ils pourraient être là avec nous. Mais la difficulté, c'est que, vous savez, après, c'est difficile hein, en tant que cadre ou directeur de venir et de devoir dire ce qu'ils ressentent. Parce que je pense qu'eux aussi, ils sont désarmés.
Il y a combien de personnes hospitalisées actuellement?
Alors, en EHPAD... en EHPAD, si on compte les ombelles et les bleuets, il y a à peu près 80 personnes hospitalisées aux ombelles et aux bleuets. Et on en a aussi dans les unités Alzheimer, le fil de soie. Fil de soie, c'est il y a 4 unités, 72 personnes en unité Alzheimer. Donc, en tout, ça fait 80 plus 72. Ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup quand même sur le secteur de Die.
Voilà, et ça, c'est une activité qui prend 24 heures sur 24.
Absolument.
Avec 60 personnes pour gérer.
Ouais.
Voilà, on peut faire le calcul simple.
Ouais, une soixantaine de personnes. Après, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'on regarde les effectifs réellement, donc on regarde, on peut prendre les plannings, on regarde, et puis en fait, dans les effectifs est compté les personnes en longue maladie. Donc, ils sont considérés en tant que salariés, mais ils ne travaillent pas en longue maladie, en arrêt maladie. Il y a aussi quand ils sont en congé maternité. Il y a des filles qui sont en congé maternité, mais le problème, c'est que comme elles n'ont pas, elles sont pas dans les, par rapport aux mois de travail, elles sont pas. Par exemple, on a 4 mois. Des fois, elles sont en arrêt maladie avant. Par l'autorisation du gynécologue, parce que la difficulté, c'est le poids et tout ça. Pour une personne enceinte, c'est difficile. Donc, en fait, on ne peut pas regarder. Parce que si on regarde de près les chiffres, s'ils disent, il y en a une soixantaine pour je ne sais pas combien de... En fait, en réalité, non, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Après, il faut compter en ETP, en personne présente, en personne longue maladie. C'est difficile. On a un accident de travail ou des gens qui attendent d'être reconnus en longue maladie. Donc, en fait, on n'est pas vraiment... Le chiffre qui est dit n'est pas réel concrètement sur le terrain. Voilà, c'est ça aussi, c'est un gros problème.
Il y a un manque d'informations évident par rapport à l'avenir aussi au sein de l'équipe. Est-ce que vous pressentez quelque chose? Vous le disiez un peu tout à l'heure, il y a quelque chose de pas normal qui se passe.
Oui, quelque chose de pas normal qui se passe. Après, au niveau de l'avenir, bien sûr, il est incertain parce qu'à chaque fois, on nous baisse, on nous enlève du personnel, on nous enlève des moyens. On nous dit, c'est pas possible, cette personne ne sera pas remplacée. Ou alors, les vacances d'été, c'est compromis. Ça veut dire que vous avez 5 semaines à poser par an. Et puis finalement, en été, on vous dit vous ne les aurez pas. Et en plus, on nous prévient quand? On nous prévient suivant les besoins du personnel, enfin le besoin du cadre qui dit je ne sais pas trop si vous aurez vos vacances. On sait qu'on a les vacances d'été le 31 mars. Enfin, je veux dire, c'est aussi des conditions de travail difficiles quand on ne sait pas quand c'est qu'on va être en vacances. On est au courant de nos plannings de vacances de Noël, des vacances de fête d'année, 15 jours avant. Donc, on ne peut rien organiser. On est dans une situation où, en fait, aujourd'hui, demander ces congés annuels ou ces repos ou même ces heures supplémentaires est devenu une difficulté alors que c'est un droit. C'est un droit du travail. C'est devenu compliqué. On ne peut pas partir en vacances quand on veut. On ne peut pas partir le nombre de jours qu'on veut parce qu'il faut un certain nombre de personnels parce qu'ils ne sont pas remplacés en été. Voilà, alors ça aussi, ça contribue aussi au mal-être des soignants parce qu'on a besoin de vacances comme tout le monde. C'est un droit national. Et aujourd'hui, on dit non, c'est pas possible. On nous rappelle sur des congés annuels. On nous rappelle sur des repos hebdomadaires pour remplacer une personne parce qu'elle est en arrêt, parce qu'ils savent bien que ça ne pourra pas tourner. Le problème, c'est qu'à la fin, finalement, on génère des heures supplémentaires qui sont payées à partir d'un certain seuil et qu'on essaye de récupérer une année sur l'autre. Mais ça dépend toujours aussi du nombre de personnel qui sera sur place. Donc les congés annuels, c'est une difficulté. Les repos, on nous appelle tout le temps. Franchement, je vais vous dire, on se sent harcelé.
Je voulais savoir, existait-il un conseil de surveillance de l'EHPAD?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il en dit, ce conseil, qui est même représenté par une partie de la population locale?
Oui, exactement, ouais.
Et qu'est-ce qu'elle en dit?
Aussi, ils se rendent compte des difficultés, parce que souvent, les familles les appellent pour savoir ce qu'il en est, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Pourquoi il n'y a pas eu un soin qui a été prodigué à ma mère alors qu'elle en avait besoin? Pourquoi c'est si long? Bien sûr, eux aussi, ils s'en rendent compte. Et c'est vrai que, du coup, ils ont aussi des revendications. Eux aussi, ils se mobilisent. Et ils savent que c'est grâce à ces genres de commissions que les choses peuvent avancer. Sauf que des fois, on a l'impression qu'en fait, c'est peine perdue. Les gens commencent à... On est tellement fatigués de tout que des fois, on ne croit plus que les choses peuvent évoluer. Et c'est pour ça aussi que peut-être qu'une partie des personnels soignants a baissé les bras. Parce que finalement, ça fait des années qu'on le dit, ils le voient. Non, mais ça devient compliqué. Et le conseil de surveillance est tout à fait au courant. Et ils se rendent compte de la situation et eux aussi se mobilisent.
Leur mobilisation, concrètement, on peut la définir?
Le sous-préfet qui a été gentiment... reçu alors que c'était pas prévu du tout.
Oui.
Franchement, c'est bien parce que du coup, on se sent moins seul. Et on a aussi la présence de M. Trémollet, le maire de Die, qui est venu aussi nous soutenir, qui a passé du temps avec nous. Nous avons discuté. Il a bien entendu nos revendications parce que, bien entendu, lui aussi fait partie du conseil administratif. Donc, non, c'est bien. Il était là. Après, le sous-préfet est en train de recevoir la secrétaire FO. Donc, je pense que peut-être on a un espoir.
Et je voulais savoir, est-ce que de mémoire, vous pouvez citer le moment où tout allait bien?
Le moment où tout allait bien, c'est avant la... Alors ça remonte peut-être en 2008. Tout allait bien en 2008. Ça allait bien, ça allait bien dans la limite du raisonnable. Mais c'est vrai que moi je sais que les conditions sont dégradées là dans les 10 dernières années en fait. Et progressivement en fait, sans qu'on s'en rende compte réellement. Parce qu'il y a une convention tripartite qui a fait que là ça a commencé à diminuer. Il fallait que dans la journée on soit 8 agents pour couvrir toute la journée. Donc,
au lieu de
En fait normalement on était 6 le matin et 4 l'après-midi. on devait être 10. Et là, tout d'un coup, ils en ont enlevé 2. Et puis après, ils en ont enlevé 1 le matin, 1 l'après-midi. Puis après, c'est devenu à 4 le matin, mais avec un coupé. Donc un coupé, ça veut dire qu'il y a une personne qui vient 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi. Mais ça veut dire qu'en fait, le matin, on fonctionne à 4h30 et puis l'après-midi à 2h30. Mais sachant que l'après-midi, c'est quand même le même nombre de résidents. C'est quand même... Alors bien entendu, il n'y a pas les toilettes, mais il reste quand même l'animation, parce que les gens aussi ont besoin d'animation. Il y a quand même la collation, puis il reste quand même des changes, parce que c'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et il y a quand même du relationnel. Et je pense que 2h30 l'après-midi et 4h30 le matin, c'est pas possible, quoi. Et il y a des fois où on n'est que 3h30, hein, parce que quand il y a des arrêts qui ne sont pas remplacés, puisqu'on fait revenir le personnel, mais au bout d'un moment, ils génèrent tellement d'heures supplémentaires qu'on ne peut plus se permettre de rappeler tout le temps le même personnel, parce qu'à un moment donné, il faut le leur rendre. Et donc, voilà, du coup, en 3h30, on arrive le matin, il manque une personne. Oui, mais hier, comme je vous dis, les maladies liées au travail, au poids et à la fatigue, au burn-out. Il faut bien souligner qu'il y a du burn-out. Il y a des maladies qui ne se voient pas, mais qui rongent de l'intérieur. Et croyez-moi, j'ai rencontré des collègues qui vraiment étaient à ramasser à la petite cuillère et qu'on leur a bien fait comprendre que ce serait bien qu'elles changent de profession. Mais voyons, est-ce que c'est une réelle réponse ? C'est pas une réponse. C'est pas une réponse de dire « change de métier si ça te plaît pas ». Mais non, mais pas du tout. C'est un métier qui me plaît. J'ai fait les études qu'il faut. Mais simplement, on m'a pas appris à ne pas bien traiter une personne, parce que finalement on en devient à être à faire de la maltraitance qui est insidieuse, en fait. C'est de la maltraitance à se dire la personne n'est pas lavée ce matin, tant pis. En fait, son repas, au lieu de lui donner en 20 minutes, parce qu'on on fait faire des formations quand même, ils aiment bien faire les formations sur la bientraitance, et on nous dit que donner à manger à une personne pour être bientraitant, il faut que ça dure 20 minutes. Mais c'est pas vrai, on en met 10. Pourquoi ? Parce qu'on a 10 personnes à donner à manger, et parce que dans un laps de temps bien réduit, et la personne, souvent quand il y a des fausses routes, il faut faire attention, il faut mettre plus de temps. Donc c'est de l'abattage qu'on fait, c'est qu'on gave ces gens. On pense pas à eux, à leur goût, à leur... je sais pas, on les gave en fait, et c'est pas normal, ça fait pas partie de notre formation d'aide-soignante, ça fait pas partie de nos convictions personnelles et de nos consciences professionnelles, et c'est ça qui mine les filles en fait, parce qu'il y a des hommes aussi.
Et vous-même
aussi. Oui, bien sûr, ça nous mine, on s'y attendait, mais comment je vais faire ce matin, je vais m'occuper d'elle, mais en fait son petit-déj ça va être du rapide. Non, c'est pas normal.
Comment sont perçues ces restrictions au niveau des résidents ?
Ils le ressentent bien, et d'ailleurs ils le disent bien. Hein. On peut leur demander, hein. Ils disent tous oui, mais c'est normal, elle n'a pas le temps, elle est toujours à droite à gauche. Quand ils parlent de nous, ils disent je suis content de vous voir. Oui, mais aujourd'hui, madame, je suis désolée, mais on n'aura pas le temps de vous donner la douche, il y a un arrêt et tout. Et la personne, c'est pas grave, je comprends. Oui, c'est sûr, c'est pas facile. Ils sont très. Ils sont avec nous. Ils comprennent la situation. Mais en même temps, ils la subissent. C'est pas parce qu'ils la comprennent et qu'ils nous voient. Hein. Ils voient qu'on travaille, qu'on est là, qu'on essaye de faire le maximum. Ils nous comprennent, mais ils ne voient pas dans quelles conditions on le vit. C'est difficile pour nous. Et nous, on essaye d'arrondir les angles, de leur dire écoutez, demain, promis, je vais faire tout pour que vous soyez la première, ou cet après-midi, finalement, vous l'aurez. On va essayer de décaler, je vais voir avec ma collègue d'après-midi si elle peut le faire. Eux, ils sont vraiment gentils, vous sentez vraiment qu'ils sont hyper compréhensifs. Et franchement, ils ont une gentillesse. C'est ça, en fait, qui est dur.
Pour vous, quelle est l'impression de ce qui se passe actuellement vis-à-vis d'un État qui se veut égalitaire, fraternel, et puis...
En fait, on se retrouve dans... Oui, il se veut, mais il ne s'en donne pas les moyens. C'est bien gentil, hein, parce qu'ils disent qu'ils luttent contre la discrimination. La discrimination, elle est aussi face aux personnes en difficulté, qui se retrouvent en EHPAD et qui n'ont pas ce qu'ils pourraient avoir comme soins de première nécessité. On va rester au moins les bases. Je pense que ce gouvernement, en fait, il n'a pas... c'est incroyable, hein, il parle d'égalité, de fraternité, de liberté, mais c'est tout ça, là, c'est une devise qui est passée. On est passé à autre chose maintenant. Non, si on a de l'argent, on est bien soigné. Puis si on n'en a pas, on n'est pas bien soigné. Puis c'est tout.
Est-ce que c'est un défaut de la jeunesse ? d'avoir un gouvernement relativement jeune quand même. Est-ce que les prises de conscience en fonction de l'âge sont différentes?
Je pense, de toute façon après, quand on devient président, déjà on est dans un milieu qui est pas trop mal. Bon, je pense pas qu'on soit si proche de la population en réalité. Faut pas se leurrer, hein, à un moment donné, quand on voit Emmanuel Macron, de quel milieu il vient, c'est très bien pour lui, hein, je suis contente qu'il ait réussi, hein, mais il est pas auprès du peuple. De la réalité d'aujourd'hui, je veux dire, il est au-dessus de tout ça. Je pense qu'il est plus dans l'argent.
Il est dans une réalité financière.
Mais évidemment, quand on sait qu'il a été banquier pour une grande famille renommée, faut pas se leurrer. Hein. Il est là, en fait, c'est un économiste. Hein, c'est un gars qui voit un peu financièrement. Il veut bien se faire voir par les autres pays européens, un point à la ligne. Il s'en fout, hein. De toute façon, lui, il est bien, hein. Il est tranquille, il a rien à craindre. Il sait qu'il va être pris en charge correctement, hein. Et non, mais je pense.
Une petite question, la dernière. Est-ce que vous auriez la crainte de vous voir discrédité par les autorités sanitaires ou publiques vis-à-vis de ces conditions de travail? Et c'est.
Ah bah, qui nous donne les moyens, hein. Et puis après, on fera les choses correctement. Comme on nous les a apprises, et je vous assure que le personnel sera heureux, les personnes âgées sont heureuses, les familles aussi. Il y aura moins d'arrêts maladie, forcément, on travaille dans des conditions avec les effectifs qu'il faut, avec le matériel qu'il faut et avec la considération qui va avec. Je vous assure que. Alors après, il ne faut pas être dans l'utopie non plus, hein. Il n'y a pas un monde tout rose, hein. Mais c'est sûr que s'ils améliorent les conditions de travail, alors on sera considéré, alors notre travail, on le fera à cœur et les personnes âgées seront considérées. Voilà.
Eh bien, est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Non? Même pas le prénom?
Non.
Bon. Alors, vous êtes juste délégué force ouvrière,
voilà,
on pourra
c'est
dire.
Ça.
Très
voilà.
Bien. Eh bien, je vais passer à quelqu'un d'autre.
Hein.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux citer votre prénom, au moins?
Ah, tout à fait. Moi, je suis Claire Billon, représentante du syndicat EFOI, l'hôpital de Die.
Vous venez d'être reçue à la sous-préfecture pour présenter vos revendications. Qui sont lesquelles, principalement?
Alors, nos revendications, la principale revendication, c'est plus de personnel pour pouvoir prendre en charge correctement les résidents. Et que les agents soient plus en difficulté de mal-être, d'insatisfaction au travail, de fatigue, de stress, d'angoisse, de tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à travailler correctement. Et on ne va pas au travail pour sortir ou pour déjà arriver avec le mal au ventre et puis repartir en pleurant. Le but du travail, c'est pouvoir au contraire se dire... Voilà, c'est avoir la satisfaction au travail et puis pouvoir aussi développer tout ce qu'on a envie de faire. Et là, on ne peut absolument pas faire ça. Là, on est dans le faire vite, dans la rapidité, dans le stress. Donc, c'est pas constructif. Les agents, ce n'est pas constructif. Et la reconnaissance, elle n'est pas là non plus. Donc, il y a plein de choses qui manquent.
Oui, c'est une situation où il n'y a plus du tout de reconnaissance vis-à-vis de vous, le personnel, mais aussi ceux des résidents.
Ah, tout à fait.
Après une vie de travail, est-ce que c'est...
Mais voilà, la personne âgée, on doit la prendre, je vais dire, on doit la respecter, aussi bien dans sa personne que dans son intimité. Et ça, on a vraiment de plus en plus de difficultés à le faire correctement. Parce que quand vous faites quelque chose rapidement, vous ne prenez pas le temps avec une personne âgée de prendre soin d'elle et de comment dire, de sa rapidité à elle, qui n'est pas très rapide. On peut plutôt dire de sa lenteur. Donc, on ne la respecte pas. Et je ne comprends pas d'ailleurs qu'en France, on ne respecte pas nos personnes âgées. Parce que c'est la base, le respect de la personne âgée. Je crois que c'est la base d'une nation, c'est quand même nos anciens et ceux qui nous ont tout apporté. Donc, et nous aussi, plus tard, on va être âgés. Donc à un moment, il faut réagir maintenant, c'est sûr.
Alors, est-ce que vous-même, l'équipe qui travaillait, avez établi ce qui manquerait justement pour avoir une meilleure gestion des soins?
La meilleure gestion des soins, c'est toute une équipe qui est en difficulté actuellement. C'est avoir un médecin qui soit pérenne, comme on dit. C'est-à-dire là, on travaille avec des intérimaires qui change toutes les semaines pratiquement. Donc pour le suivi des patients de l'équipe, ce n'est pas possible. Des infirmiers qui travaillent en 12 heures et qui sont épuisés. Et là, c'est identique. On a un turnover important d'infirmiers. Donc ça ne stabilise pas une équipe non plus. Et après, des aides-soignants en nombre suffisant, c'est-à-dire au minimum 5 le matin dans certains services et 3-4 l'après-midi, voire. C'est ça voilà. Nos revendications, c'est vraiment avoir du personnel suffisant et une équipe qui tient la route, sinon on ne peut pas travailler.
Tout à l'heure, j'avais une personne qui me disait qu'en 2008, il existait à peu près 10 personnes par journée, en 5 ou 6 le matin et 4 l'après-midi. Enfin, en gros, il fallait une dizaine de personnes hein, pour gérer.
En 2009, il y a le protocole de grève qui a été signé. Et les protocoles de grève, ça donne les effectifs minimums en cas de grève. D'accord ? Donc, ça a été signé en 2009 et 2009, ça n'a jamais été remis en question. Donc, c'est toujours valable. Donc, l'effectif de grève aux Zombelles, au deuxième étage, normalement, c'est 8 personnes le matin. Là, on en est à 6. Et l'effectif l'après-midi, c'est 6. Là, on en est à 4. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème au point de vue effectif. On est en dessous du minimum syndical, comme on dit. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Même sur les papiers, c'est réel. Donc et les personnes âgées, quand elles rentrent, elles sont plus dépendantes qu'avant. Donc on a vraiment plus de travail. Donc plus de travail, mais le personnel qui diminue, il y a quand même une opération là qu'on ne comprend pas trop bien.
Oui, il y a une incompréhension hein, quant à l'avenir même, hein, tout simplement. Vous avez donc été reçu par monsieur le sous-préfet. Il a pris note de vos revendications.
Il a bien compris la situation. Il nous a posé des questions par rapport aux EHPAD, etc. Et il va faire un petit compte-rendu par rapport à tout ce qu'on a dit. Et il va faire remonter à l'ARS. Donc ça, c'est très bien. C'est très, c'est vraiment du positif.
Et vous êtes jamais adressé à l'ARS avant aujourd'hui?
On ne s'adresse pas à l'ARS, on passe d'abord par la hiérarchie. En fonction publique, il y a des normes à respecter. Donc d'abord notre hiérarchie. Notre hiérarchie, c'est les cadres, la direction. Mais à un moment, quand on voit que ça ne bouge pas, on s'adresse un peu plus haut. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Aussi bien pour protéger le personnel que pour protéger les résidents.
Là, aujourd'hui, c'est un mouvement de grève nationale, mais par exemple, pour vous soutenir et puis d'avoir aussi des nouvelles de cette structure, est-ce qu'il y a une possibilité de s'informer quelque part? Est-ce que vous auriez monté genre un collectif ou...
Ah mais il existe déjà un collectif de défense de l'hôpital.
Oui, et qui est regroupé, donc vous êtes
non,
au sein
non,
de ce
pas
collectif
du tout. Non, pas du tout. Le collectif de défense de l'hôpital, ce sont des personnes qui travaillent, qui sont en dehors de l'hôpital.
Oui, ça d'accord.
Nous,
oui.
Dans l'hôpital, on n'a rien d'organisé vraiment,
Non.
Par le syndicat qui va à droite, à gauche, mais il n'y a rien de... Non.
Voilà, mais c'était pour...
Les agents, ils en ont tellement marre que quand ils sortent de leur travail, ils n'ont pas envie de se remettre dans un collectif de quelque chose. Il faut être là à côté d'eux pour les accompagner, mais pas pendant leurs heures de travail, quand ils sont disponibles, mais pas après, c'est pas possible. Ça, c'est plus envisageable pour le moment.
C'est un métier typiquement féminin d'assister les personnes âgées, parce que je vois que vous êtes beaucoup de femmes, mais il y a un homme aussi.
Oui,
là.
Mais il y a de plus en plus d'hommes qui rentrent dans la profession, mais c'est vrai que c'est bien plus féminin, la protection, enfin, s'occuper de... D'une personne, oui, c'est plus féminin, mais voilà, ça...
Est-ce que, de mémoire, vous pouvez me dire jusqu'à quel moment tout allait bien ?
Ouais, ça fait à peu près, ça a dégénéré, moi je crois que ça fait à peu près 5 ans, où on est vraiment en difficulté, oui, tout doucement, ça... Oui. En fait, je suis en train de réfléchir, 5 ans, le fil de soie, l'unité Alzheimer, assimilée Alzheimer a été ouverte en 2010... Donc là, elle requiert beaucoup plus de personnel que l'EHPAD normal, les fleurs à côté. Ce qui fait qu'il y a une différence au point de vue personnel, effectif. Et voilà, aux fleurs, on est vraiment en difficulté. Donc ça fait à peu près 5 ans, les conditions de travail, partout, ça va pas bien, quoi. Voilà, en difficulté.
Eh bien, merci. Vous êtes employé à l'EHPAD ?
Oui, je suis aide-soignant.
Vous êtes aide-soignant ? Vous-même, est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir de l'EHPAD ou du moins de son fonctionnement actuellement ?
Pour les deux, oui. Du fonctionnement et pour l'avenir. Si ça continue comme ça, déjà que les gens vieillissent pas en super forme, pas tous, mais la majorité de la population n'est pas des pas, ce sont pas des gens bien portants. Il faut beaucoup de soins et sauf, vu qu'on est de moins en moins nombreux, ben ces soins on peut pas leur apporter. Donc après, est-ce que les gens qui imposent ce genre de loi et de réglementation aimeraient qu'on les traite comme ça plus tard? Peut-être qu'eux, avec leurs moyens, du coup, ils pourront se payer un aide-soignant en particulier, mais la majorité de la population, non.
Je disais, je demandais à la personne d'avant, c'est un métier typiquement féminin, mais il y a de plus en plus d'hommes, elle me disait, qui s'exerçaient dans cette activité.
Oui, majoritairement féminin. Après, c'est...
Est-ce que c'est une vocation au départ?
Ah oui, c'est
de vouloir
une vocation.
S'occuper,
oui.
Vous avez fait des études?
Ben, j'ai fait une année d'études et j'ai eu diplômé d'État aide-soignant.
Et on ne vous a pas prévenu que dans l'avenir, la vie serait moins rose pour les maisons de retraite à l'époque de la formation,
non, pas du
par
tout,
exemple
non.
Tout va bien?
Non. Non, puisqu'on nous apprend à l'école, c'est très difficile de l'appliquer en vrai sur le terrain. Voilà. C'est que si on faisait vraiment tout ce qu'on nous disait de faire, comme il faut faire à l'école, en fait, on, de par la demande de rapidité pour s'occuper des gens, eh ben on ne pourrait pas s'occuper d'autant de gens. Donc on s'occupe mal des gens aujourd'hui et ça va être de pire en pire. Et on regrette, parce que quand on rentre chez nous, ben, on s'est dit qu'on a mal travaillé. C'est très rare de se dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui par exemple, on a bien travaillé. Ça, c'est quasiment... C'est exceptionnel. Ça devrait être exceptionnel de se dire qu'on a mal travaillé, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel de se dire qu'on a bien travaillé.
Voilà. Et je suppose que ça n'aide pas à vivre d'être dans cette situation, d'avoir mal fait son travail. Est-ce que les scrupules vous étouffent même? C'est une question un peu difficile, hein. Vous n'êtes
ouais,
pas obligé de répondre.
C'est difficile, oui. Après, c'est pas des scrupules, mais c'est de se dire, est-ce qu'un jour j'y retournerai? Est-ce qu'un jour je me lèverai et je dirai non, aujourd'hui j'y vais pas, parce que je peux plus. On peut se poser cette question. Hein.
Ouais. Eh bien, merci en tout cas, et bonne soirée quand même.
Merci, vous aussi.
Interview.
Au revoir.
Okay, the bird.